dans une nouvelle série de cours sur le livre qui s'appelle Aleshour, qui a été rédigé par Rav Shlomo Wolbe, qui est décédé il y a quelques mois, ici en Israël. Alors, c'est une série de cours qui va traiter de la personnalité humaine. C'est-à-dire, après les quelques introductions, on va entamer un grand sujet qui s'appelle la connaissance de soi, pour ensuite arriver à un autre sujet qui va s'appeler la transformation, la métamorphose de soi, l'amélioration de ses personnalités, pour ensuite pouvoir aboutir à un sujet qui s'appelle le fait de pouvoir fusionner avec la Torah. Alors, première introduction à ce cours-là. Lorsqu'on aborde un sujet immense et géant comme la Torah, il faut bien comprendre une chose. C'est que la Torah, si c'est d'une part une science extraordinaire, c'est une connaissance, un génie extraordinaire qui va jusqu'à l'infini. Mais en fait, ce n'est pas uniquement une connaissance, une science, c'est bien plus que cela. La Torah, en effet, elle est là, elle vient pour transformer l'être humain. Avant d'expliquer cela, on va donner quelques notions pour donner quelques indices sur la grandeur infinie de la Torah. Le Gaon Mivilna, qui vivait environ 200-250 années, qui connaissait le chasse entier à l'âge de 12 ans, a rédigé des dizaines de livres sur la Torah, avait une connaissance vraiment inouïe, extraordinaire sur la Torah. Et ce Gaon Mivilna, une fois un matin, s'est levé et il était attristé, ce qui n'était pas son habitude. Son élève lui pose la question: pourquoi est-ce que vous êtes si attristé? Le maître n'a pas voulu lui répondre, mais après quelques insistations, il lui a expliqué. Il lui a dit: j'ai fait un rêve dans lequel m'est apparu Élu un avis. Et dans ce rêve, Élu un avis est venu m'enseigner des commentaires sur la Torah. Il m'a enseigné sur trois mots de la Torah, Alouzé, Banegev, dans la paracha Shelach, lorsque Moshe a envoyé les Bnei Israël explorer la terre d'Israël. Il a envoyé 12 explorateurs et leur a dit Alouzé, Banegev, c'est-à-dire commencer à explorer le pays par le sud. Alouzé, Banegev, monter par le sud. Trois mots. Et lui, un avis, raconte le Gaon Mivilna, m'a enseigné 2260 commentaires différents sur ces trois mots de la Torah. 2260 commentaires différents. Et quel genre de commentaires, quelle envergure de commentaires? Avec un de ces commentaires, il m'a enseigné quelles sont toutes les forces de l'être humain. L'être humain, pas, c'est écrit dans un début de Gomina, il y a au total 70 facultés, capacités, forces, morales, intellectuelles, spirituelles de l'être humain. Et toutes ces capacités-là, eh bien, elles sont enseignées de façon, par allusion, dans ces trois mots de la Torah, Alouzé Banegev. Ça, c'était un des commentaires. Et il m'a rajouté encore 2259 commentaires différents sur ces trois mots-là. Le matin, en me réveillant, raconte de Gaon Mivilna son élève, j'ai continué à penser à ces commentaires-là de la Torah, avant de réciter Birkat HaTorah, avant de prononcer la bénédiction de la Torah. Ce qui est interdit d'après la Shita, d'après la vie du Gaon Mivilna. D'après Maran, c'est permis. On peut penser à la Torah, dans le Balachot, mieux vaut l'éviter, mais on a le droit d'après l'Halakha. D'après le Gaon Mivilna, c'est interdit. Et comme le Gaon Mivilna a lui transgressé sa propre Halakha, eh bien c'est pourquoi il a été puni, il a oublié ses 2260 commentaires, et c'est pourquoi ce matin il était tellement attristé. Donc, il a raconté ensuite 3 semaines après. Qu'encore une fois, Élu un avis lui a apparu, il a répété ces commentaires-là, il a fait très attention le matin en se levant de ne pas y penser avant Birkat HaTorah. C'est pour donner un aperçu, un indice de ce que c'est l'envergure de la Torah. Sur trois mots, on a, n'est-ce pas, au moins 2260 commentaires d'une envergure gigantesque. La Gemara dit aussi, Rabbi Akiva, Adoresh, Tilet Tilim Shelachot, Al Kol Tag Vetag. C'est-à-dire, Rabbi Akiva enseignait des monticules de Halachot sur chaque petit, traîne pas, non pas sur les mots et les lettres, il y a des lettres de la Torah, chaque Nesgat, qui ont des petits traits au-dessus. Sur le Shin, il y a des petits traits. Sur chaque petit trait des lettres, il enseignait des monticules de Halakhot. Rabbi Elazar disait, si les océans étaient de l'encre, ça ne me suffirait pas pour écrire ce que je connais de la Torah. Et ce que je connais de la Torah, c'est une goutte dans l'océan par rapport à ce que mes maîtres m'ont enseigné. C'est inouï, inimaginable. Et malgré tout ça, le Golem a dit, le verset nous dit, Torah Tachem Temima Meshivat Nafesh. La Torah Sukkot Temima, elle est parfaite. Il rajoute aussi, Temima, elle est intacte. Temima, intacte, c'est-à-dire c'est comme si on ne l'a pas touché. La Torah est tellement infinie qu'avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a étudié, tout ce que pas des millions de personnes ont étudié dans la Torah pendant des millénaires, avec tous les millions de livres qui ont été rédigés sur la Torah, eh bien c'est comme si on a pris un goutte dans l'océan. Cette Torah, elle est si immense que c'est comme si elle est intacte, on ne l'a pas encore touchée. Quand est-ce qu'on va la connaître, Zat Hashem? C'est après la venue du Mashiach, du Messie, ainsi que dans le monde futur. Bon, d'autres notions. C'est donner un aperçu de l'envergure gigantesque de la Torah. C'est pourquoi, quand on aborde la Torah, il faut savoir que si la Torah, c'est vrai, c'est aussi une connaissance, c'est une science extraordinaire. Mais ce n'est pas que cela, c'est bien plus que cela. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, ça doit absolument traverser, pénétrer notre personnalité. Un homme doit absolument viser, aspirer, d'être transformé, métamorphosé par cette Torah, par l'étude, la compréhension, par l'accomplissement de chaque mot, de chaque mitzvah, de chaque phrase de la Torah. Ce qu'on va expliquer, comment aborder cette Torah, comment opérer cette transformation en soi. Pas comme on dit qu'un mathématicien n'est pas transformé en trapèze ou en rectangle. Pas lui, il est ce qu'il est, il étudie, il enseigne la mathématique, mais ça ne va pas le transformer. Alors que, pas quelqu'un qui étudie la Torah doit absolument être transformé. Si on considère la Torah comme une science à l'état brut, qui ne nous concerne pas, c'est qu'on est carrément à côté du panneau. Il faut absolument que l'approche qu'on a au monde entier, à la civilisation, à la personnalité humaine, à la société, soit transformée, changée par l'étude, par la compréhension de la Torah. Alors, avant d'expliquer comment le réaliser, on va expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Alors, on va d'abord amener à cela quelques exemples dans lesquels on s'est rendu compte qu'il y a une transformation qui est réalisée. Le Rambam, lorsqu'il parle de la névoie de la prophétie, nous dit la chose suivante. À partir du moment où l'esprit de la prophétie va reposer sur la personne en question qui a été nommée prophète. Et bien, à partir de ce moment-là, cet homme en question, son âme, elle va se mélanger, se rapprocher des vertus, des qualités des anges. Et il va être transformé en un autre homme. Et il va comprendre qu'il n'est plus comme ce qu'il était auparavant, mais il a été élevé par rapport aux autres êtres humains, comme il a été dit pour Shaoul, quand Shaoul, n'est-ce pas, ah oui, une prophétie, « Vitnabita imam veneparta leishacher » Tu vas prophétiser et tu vas être transformé en un autre homme. La prophétie transforme l'être humain. Exemple numéro 2, la tchouva. Le Rambam dit « Midarka tchouva » Quelqu'un qui fait la tchouva, quelqu'un qui a fait des fautes et qui regrette. Qui regrette et qui abandonne la faute et qui va à présent changer de chemin, prendre des fermes résolutions de ne plus commettre la faute avec toutes les étapes de la tchouva que ça comprend. Le Rambam rajoute, il y a encore une étape, Midarka tchouva, dans les chemins, les sentiers de la tchouva, ce n'est pas obligatoire, pas impératif, mais c'est conseillé. Meshane Shmo, il transforme son nom. De nos jours, on ne le fait pas, mais auparavant, il le faisait. Meshane Shmo, quelqu'un, il transforme son nom. Klomar, c'est comme pour dire, je suis un autre homme. Je ne suis plus telle personne qui a fait telle faute, mais je suis un autre homme, c'est pourquoi j'ai un autre nom. Et il change aussi ses actions, que tout soit bon, et son chemin aussi, il prend un chemin qui soit totalement bon. La tchouva transforme l'homme. Troisième exemple, qui rejoint aussi le second exemple, c'est lorsque quelqu'un écoute le reproche, la réprimande de quelqu'un d'un sage qui lui fait un reproche. Et cet homme-là va prendre la ferme résolution, n'est-ce pas, d'accepter ce qu'on lui dit. Ça rejoint la tchouva, mais avec la différence que la tchouva, c'est lorsqu'il a déjà réalisé la tchouva. Alors que ici, même avant le fait d'accomplir, de réaliser la tchouva, le fait même d'avoir entendu le reproche et d'avoir pris la ferme décision de ne plus commettre la faute, c'est déjà une transformation. Cet homme-là, en écoutant le reproche, en écoutant la leçon de morale, il a été métamorphosé. Donc on a ici trois cas, la prophétie, la tchouva, ou écouter le reproche en prenant une ferme résolution, ça transforme l'être humain. Maintenant, cette transformation, en quoi est-ce qu'elle consiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va considérer que c'est réellement un autre homme? C'est-à-dire que Réhouven a été transformé en Shimon, et c'est notre homme. C'est évident que ce n'est pas ça, parce que c'est le même homme, mais qui a une conception différente, qui a une action différente, qui a pris d'autres résolutions. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cet homme-là qui a été transformé, cet homme transformé existait déjà auparavant dans le premier homme. Mais c'était quelque chose qui était voilé, caché, dissimulé. C'est-à-dire que cet homme-là a découvert, grâce à la prophétie, à la tchouva, en écoutant le reproche, il a découvert en lui des couches de sa personnalité qui étaient jusqu'à présent cachées, voilées, dissimulées. Il les a fait rejaillir à l'extérieur de sa personnalité. Machal, prenons un exemple. On l'avait déjà cité une fois. Quelqu'un, n'est-ce pas, un homme est comparé à un grand bâtiment. Un grand bâtiment dans lequel il y a plusieurs étages, il y a aussi un rez-de-chaussée, il y a aussi une cave. Et cet homme-là peut malheureusement, pendant de longues années de sa vie, habiter dans sa propre cave. On va prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui a gagné à la loterie un château extraordinaire, en forêt, il prend la clé, il prend l'adresse, et fait le voyage, arrive à l'adresse indiquée, stationne en face du château, il voit en face de lui une petite porte, il fonce, la tête baissée, il ouvre cette porte, et s'installe. Il voit là-bas un beau studio, il est content, il est heureux. Mais en fait, c'était uniquement la cave du château. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y a encore premier étage, second étage, il y a un penthouse, il y a une terrasse, une piscine, un jardin, etc. C'est ce qui nous arrive bien souvent. C'est qu'un être humain, bien souvent, il habite dans la cave de sa personnalité. C'est-à-dire qu'un homme a plusieurs couches, plusieurs façons d'agir, de réagir, de comprendre, de vivre. Et bien souvent, on vit dans les couches les plus basses de notre personnalité. Entre parenthèses, bien souvent, on se rend compte, l'homme se rend compte, qu'il y a beaucoup de paradoxes en lui. Des fois, il se conduit comme un animal, des fois, il se conduit comme un ange. En fait, c'est un être humain. Il y a un paradoxe, parce qu'en effet, c'est une âme qui habite un corps. L'âme, elle est spirituelle, le corps, n'est-ce pas, il est bas, matériel, instinctif, etc. Et chacun tire de son côté. Chacun tire de son côté, l'âme vers le côté spirituel, et le corps vers le côté matériel. Et l'homme doit absolument trouver, créer en lui une harmonie parfaite et idéale entre le corps et l'âme. Si ce n'est pas le cas, l'homme va vivre toute sa vie dans un paradoxe insupportable. Des fois, c'est même démoralisant, décourageant. Des fois, un homme se conduit de façon extraordinaire, une conduite, n'est-ce pas, selon une morale très élevée, très noble, très louable, et des fois, une conduite très très basse, dans laquelle, n'est-ce pas, il exprime le côté bas et instinct de l'être humain. L'être humain doit absolument opérer cette transformation, cette métamorphose en soi, qui va opérer, réaliser cette harmonie entre le corps et l'âme pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Alors notre homme qui vit uniquement dans la cave, c'est bien dommage parce qu'il ne se rend pas compte qu'il y a des côtés qui sont très élevés en lui. des côtés qui sont humains, qui sont surhumains, qui sont divins, qui sont spirituels, qui sont nobles. Et il faut apprendre à les découvrir. Cet homme-là qui a été transformé par la prophétie, par la tchouva, par le fait d'écouter comme il faut le reproche, cet homme-là a été transformé et a découvert en lui ce côté divin spirituel. Et à présent, cet homme-là a pris la ferme décision de se conduire selon ses découvertes. Enfin, on a ici deux dimensions. Pas une dimension, pas du bas vers le haut. Cet homme qui habite dans la cave, mais il faut sortir de la cave et monter petit à petit. Un étage, deuxième étage, etc. On a une autre dimension, c'est la vitesse avec laquelle on avance. Quelqu'un prend une voiture, n'a pas appris à passer les vitesses, et il roule toujours en première ou en seconde vitesse. Alors, il est bien content parce qu'il va bien plus rapidement qu'avec sa trottinette qu'il avait auparavant, mais c'est dommage parce que, s'il avait appris à passer la cinquième vitesse, il aurait pu rouler à 200 à l'heure plutôt que de rouler à 20 km à l'heure. Et ce qui nous arrive, c'est que des fois on avance dans la vie, mais on avance lentement. On vit au ralenti. Pas chacun peut se rappeler qu'en période d'examen, avant le baccalauréat, on n'a pas le diplôme à décrocher, quelques jours, quelques semaines avant, on est sous tension, sous pression, on arrive à décupler, à découvrir des forces extraordinaires en soi, on arrive à s'investir, à se concentrer, à avoir un rendement bien meilleur qu'on a toute l'année. Pourquoi ? Parce qu'on est sous tension, c'est là où on arrive à puiser des forces qu'on n'avait pas auparavant. Alors en fait, ces forces, ce n'est pas qu'on a des nouvelles forces. Ces forces, elles étaient toutes présentes. Mais elles étaient cachées, dissimulées. Parce qu'on n'était pas assez motivé pour les mettre en relief. On raconte un exemple bien connu, qu'une mère qui voit qu'une armoire ou un arbre est tombé sur son enfant, son bébé, eh bien se précipite et arrive à soulever cet armoire ou cet arbre, bien qu'en temps normal, jamais elle aurait eu la force de le faire. Alors cette femme-là, c'est sûr et certain qu'elle n'a pas, tout d'un coup, pas eu une force nouvelle, une force divine, mais c'est que cette force était déjà, existait déjà en elle, mais cette force, elle était endormie, anesthésiée, parce que jamais elle n'était motivée d'exploiter cette force. Dès qu'elle était motivée par la vie de son propre enfant, tout de suite à présent, elle découvre une force qui existait en elle, mais que jamais elle n'a pu exploiter. C'est uniquement maintenant qu'elle a une raison valable de le faire, c'est là où elle arrive à découvrir. Pareil pour nous, c'est que dès qu'on est motivé, on en parlera encore plus longuement, parce que la motivation, c'est un des éléments les plus importants et essentiels pour pouvoir puiser en nous des forces extraordinaires, pour pouvoir opérer cette métamorphose en nous, par la motivation. Et c'est ce qui fait, n'est-ce pas, qu'un homme peut être transformé. Et ça peut, comme on l'a dit, agir dans deux dimensions. Une dimension du bas vers le haut, sortir de la cave pour s'élever jusqu'à habiter sur le toit, sur la terrasse. Une autre dimension, c'est aussi dans la vitesse, c'est ne pas vivre, ne pas avancer au ralenti, à la trottinette, mais avancer plus rapidement, accélérer constamment. Top. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque cet homme-là a été transformé par la prophétie, je répète encore une fois, ou par la tchouva, ou par le reproche qu'il a accepté, eh bien, cet homme-là, il a découvert en lui des nouvelles dimensions. Une dimension plus élevée, plus profonde, plus rapide, une dimension qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Une fois qu'il a découvert cette nouvelle dimension, l'homme a décidé de... L'homme peut, n'est-ce pas, à la faculté, s'il le veut, de décider de vivre dorénavant sa vie selon ses critères. Selon ses critères, n'est-ce pas, qui vont le diriger. Et dorénavant, n'est-ce pas, même s'il n'est pas encore au niveau, c'est le fait de savoir où on veut aller, où on veut arriver, c'est déjà un grand pas à l'avant. Si je veux, n'est-ce pas, arriver sur l'Everest ou sur l'Himalaya, ou alors n'importe quelle autre montagne, il faut d'abord que je vois où se situe la montagne. Parce que si je vais à l'aveuglette, jamais j'y arriverai. Une fois que j'ai bien défini, déterminé le sommet de la montagne, que j'ai bien aperçu, ensuite c'est là où je cherche, n'est-ce pas, des chemins, des sentiers dans la montagne, n'est-ce pas, dans les ruisseaux, dans les cavernes, dans la vallée, etc., pour pouvoir avancer petit à petit pour me rapprocher du sommet de la montagne. C'est pourquoi c'est toujours important, avant d'aborder un travail, bien définir, bien vérifier qu'on veut arriver de façon précise. Alors, comme dit auparavant, lorsqu'on aborde la Torah, et on prend conscience que la Torah, c'est un monde infini. Mais encore une fois, cette Torah, c'est pas uniquement une science à l'état brut, mais c'est surtout quelque chose, une science, un élément, une science extraordinaire, qui est susceptible de nous transformer, de transformer notre vie. Avant, pas de vouloir transformer sa vie dans l'action, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. C'est-à-dire que cette